offert pour tout le palais. Le tout pour apporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 88-977-75-71. CKRL 89.1.
Anyway, what I'm trying to tell you folks is, rinse it, here we rinse are. It up, rah, rah. Turn up the sound up, push up the master. Musical slaughter, then call disaster. Can you just set the whole place on fire?
Cultive tes goûts.
Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez Au 7e ciel, une émission entièrement consacrée au cinéma, cinéma sous tous les angles. Les dernières semaines, bon, j'ai été absent la semaine dernière, mais dans les dernières semaines, disons qu'il y a davantage été question de l'histoire du cinéma, des films qui ont marqué particulièrement à un moment ou l'autre l'histoire du cinéma, et en particulier, surtout, j'ai eu envie de me concentrer sur le travail d'un cinéaste à chaque émission. Donc chaque émission est cinéaste, c'est un peu le principe de courant juillet à la fin août. Maintenant je déplace un peu l'enjeu, évidemment la rentrée est là, elle bat son plein, un certain nombre de données changent lorsque vient le temps de faire une émission sur le cinéma, une émission hebdomadaire. Entre autres, le fait que les festivals, la saison des festivals est en plein essor, et en particulier le Festival de Toronto, évidemment, qui est un des moments peut-être les plus importants au cours de l'année d'un point de vue international. C'est la deuxième manifestation en importance après Cannes, selon de nombreux observateurs, et en même temps que le Festival de Toronto, ça se chevauche pratiquement. Le Festival de Toronto succède au Festival de Venise, mais le prix de la Mostra de Venise est remis au moment où le Festival de Toronto est commencé depuis quelques jours. Si on a en tête le prix qui a été remis, le grand prix qui a été remis au Festival de Venise, Faust d'Alexandre Sokourov, eh bien justement, ce film était présenté déjà à Toronto avant même qu'il ait gagné son prix, et forcément des séances ont été ajoutées du moment que le prix a été annoncé. Donc c'est simplement un exemple pour dire comment des festivals se chevauchent. Chaque festival n'a pas nécessairement la même mission, pas nécessairement le même rôle à jouer dans la planète cinéma. Le Festival de Toronto n'est pas celui qui est le plus reconnu pour son caractère compétitif et sur la dimension, disons, critique en ce qui a trait au cinéma, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement une vision éditoriale univoque qui soutient la sélection des films, puisque évidemment, il n'y a pas une sélection compétitive, il n'y a pas l'idée d'élire un certain nombre de films plutôt que d'autres, mais surtout il y a une envie peut-être de faire des catégories, ce qui est typique quand même de tout festival qui se respecte, mais disons que Toronto s'inscrit dans cette tendance qu'ont plusieurs festivals dans le monde, si on pense au BAFICI aussi à Buenos Aires, si on pense même au Festival du Nouveau Cinéma à Montréal, qui avait déjà mis les choses, cette manière de faire en place il y a plusieurs années. Certainement à ce niveau-là, on peut dire que le Festival du Nouveau Cinéma de Montréal est tout à fait contemporain de l'approche du Festival de Toronto, mais à une autre échelle, une échelle plus une échelle humaine en fait, du moment que le Festival du Nouveau Cinéma ne construit pas un gratte-ciel pour souligner, disons, que la ville où le festival bat son plein est une sorte de temple du cinéma, ben on peut dire qu'on n'est pas exactement à la même échelle, parce que à Toronto, depuis l'an dernier, il y a en plein centre-ville, sur la rue King, un gratte-ciel qui vient souligner à quel point, par exemple, la Mostra de Venise n'arrivera pas d'ici peu à rejoindre cette vitesse de croisière qu'a atteint le Festival de Toronto. On sait que le Festival de Venise, par exemple, a tenté encore dans les derniers mois de mettre en branle un grand édifice qui serait un palais du festival, et ce projet est pour l'instant laissé de côté au profit de la mise en valeur du glamour qui a toujours caractérisé Venise. Voilà, donc je fais une sorte de topo autour de l'état des lieux des festivals dans le monde, et je vais quand même me concentrer sur quelques films de la sélection qui m'ont intéressé lors de mon passage à Toronto. C'est pas du tout l'idée justement d'élire un certain nombre de films au profit d'autres, mais plutôt simplement d'y aller selon l'inspiration et selon ma mémoire de cinéphile après une semaine, quel film me reste à l'esprit. Ayant en tête aussi qu'au cours des prochains mois, au cours même des prochaines semaines, voire la semaine prochaine, j'aurai sans doute l'occasion de revenir sur d'autres films que que j'ai vus. Donc cette semaine, j'ai envie de me concentrer en particulier sur le film Un été brûlant de Philippe Garrel. Je commencerai par ça. Donc un film qui a été présenté dans la sélection Masters, je crois. Donc si on reprend donc la catégorisation propre à Toronto, sélection Masters, qui suggère une série de films qui mettent en valeur le parcours singulier d'un certain nombre de cinéastes. C'est le cas de Philippe Garrel. Son film justement a été présenté à Venise déjà une semaine avant d'être présenté à Toronto. Ensuite, j'aimerais parler un tout petit peu du film de Nuri Bilge Ceylan, grand cinéaste turc, qui, depuis le milieu des années 90, a une trajectoire tout à fait étonnante dans le paysage cinématographique international, et qui a inventé, ou du moins pris le relais en ce qui a trait au cinéma, qui met en valeur son art de la mise en scène et met en valeur son sens du rythme en même temps. Et ce sont ces deux composantes avec lesquelles le propos qu'a envie d'offrir le cinéaste au spectateur sera soutenu. Et en fin d'émission, je parlerai d'un cinéaste dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois de cela, Bruno Dumont, dont le film Hors Satan, tout récemment présenté à Cannes ce printemps, mais pas en compétition officielle comme l'avait été au moins deux films précédemment de Dumont, L'Humanité et Flandre, si je ne m'abuse. Non, certainement. L'Humanité et Flandre avait été présenté en compétition à Cannes, et donc cette fois-ci, Hors Satan était dans une sélection parallèle. Des sélections parallèles qui, à Cannes, n'ont pas le même rôle que les diverses sélections que l'on trouve, les sélections pléthoriques que l'on trouve à Toronto. Ces sélections à Cannes ont plutôt un rôle de parachèvement d'un état des lieux de la production cinématographique au printemps de chaque année. Donc c'est pas des sélections officielles sur lesquelles le directeur de la programmation a un droit de regard, comme c'est le cas à Toronto. Donc en ce sens aussi, la mission d'un directeur de programmation à Cannes, qui est Thierry Frémaux, se distingue largement de celle de Cameron Bailey à Toronto, à la fois co-directeur du Festival de Toronto et directeur de la programmation. Cameron Bailey a son mot à dire, et plusieurs programmateurs ont son mot à dire dans la sélection de plusieurs films dans des sections différentes du festival, ce qui n'est pas le cas de Frémaux, par exemple, à Cannes, dont le rôle est précisément dans un mode quasiment plus, qu'on pourrait qualifier avec sourire en coin, monarchiste, dans une idée plus monarchiste du festival de cinéma, mettre en valeur quelques cinéastes à travers une sélection officielle, finalement en élire quelques-uns au détriment d'autres. Et dans ce sens-là, la section parallèle est plutôt les films qui ont été laissés pour compte, qui auraient pu être choisis par Frémaux, mais Frémaux n'a pas nécessairement de droit de regard, du moins pas directement dans les sélections qui sont extérieures à la sélection officielle, comme La Quinzaine des réalisateurs ou encore Un certain regard. Donc, je vais parler un peu de Toronto dans les prochaines minutes et du film Hors Satan de Bruno Dumont en fin d'émission. À tout de suite.
Moi, je sais pas pour toi, mais je peux pas vivre sans une femme. Hein. Les fois dans ma vie où j'étais seul, là, c'était terrible.
Frédéric était peintre. C'était mon meilleur ami.
Ciao.
Frédéric vivait avec Angèle, une actrice de cinéma qui tournait en Italie.
Ça te plaît ?
C'est très beau.
Je te prie, c'est très beau. Je te demande si ça te plaît à toi. Ça te plaît pas ?
Il y a des toiles qui me font des bien, d'autres qui me font souffrir.
Et toi, c'est lequel tu figures prendre devant tout ça ?
Je vais rester là toute ma vie.
Tu vas faire ça, hein ?
Je vais rester comme ça tout le temps ensemble.
On va être pas ensemble, hein ?
Bah ouais, on est pour ta côte, c'est pas pareil, hein ?
T'es tout le temps avec moi, maintenant. T'es tout le temps avec Frédéric.
Non. Frédéric, il me voit même plus. Moi, il m'a mis, il me l'a montré. Il m'a puni.
Mon amour, c'est chacun pour soi.
Film qui a été présenté au Festival de Toronto plus tôt cette semaine, un film qui s'appelle Un été brûlant de Philippe Garrel. Philippe Garrel, ben, sans doute certains d'entre vous le connaissez, c'est pas forcément le cinéaste le plus accessible ou le plus apte à varier les registres ou les styles, les genres, au contraire, c'est plutôt un de ses créateurs qui creuse son sillon depuis des années, qui a eu plusieurs périodes quand même, qui a une œuvre assez ample, mais assez méconnue finalement, compte tenu que ses films les plus reconnus sont ceux qui ont eu droit à une sélection peut-être à Venise ces dernières années. Je pense aux Amants réguliers qu'il a réalisé au milieu des années 2000, qui est construit autour d'une réminiscence de mai 68 et la volonté d'aller mettre en scène des souvenirs qui ont échappé à la mémoire visuelle. C'est-à-dire que Philippe Garrel, par exemple, à la fin des années 60, avait réalisé un film qui s'appelait Actua 1, un film qui était l'un des seuls, peut-être avec un film expérimental d'Étienne O'Leary, comparse de Garrel à l'époque, mais qui était aussi un réalisateur expérimental québécois assez méconnu, dont j'ai parlé il y a quelques mois. Mais bon, Actua 1 serait un autre de ces films mythiques, malheureusement perdus, donc pratiquement comme le film d'O'Leary qui s'appelle Homéo, je crois, qui se termine par une séquence, pratiquement par une séquence, une des rares en couleur, où l'on voit des corps de police enflammés et des barricades, en plus intégrer un contexte de cinéma expérimental. J'ose croire que c'était un peu le projet de Garrel avec ce film, mais avec ce film actuel, qui est un court film qui s'inscrit plus ou moins dans ce qu'on a appelé les cinétractes à l'époque, donc des films qui devaient témoigner de ce qui se passait dans la rue, aussi bien dans mai 68 que immédiatement après, dans les semaines qui ont suivi. Donc Garrel est un cinéaste qui a plusieurs registres, mais tous ces registres, si on veut, se rejoignent dans un certain nombre de films clés, en particulier ceux réalisés ces dernières années, peut-être son meilleur film, qui s'appelle Les Amants réguliers, où il parvient, avec l'aide de ses souvenirs et de sa mémoire tactile, olfactive, sa mémoire intégrale de ce qu'a pu être mai 68, tout en admettant qu'il s'agissait, dans cette reconstitution de sa mémoire de mai 68, d'être au plus près de sa subjectivité. Donc il n'y a pas une valeur objective liée à ça, au contraire, c'est affirmé d'emblée. C'est donc une posture d'auteur. Garrel est sans doute un des cinéastes qui, au cours des dernières décennies, n'a pas fléchi en ce qui concerne cette notion d'auteur, c'est-à-dire qu'il n'a pas, en guillemets, renoncé à une manière de voir le monde qui était la sienne à 18 ans, lorsqu'il a commencé à faire des films, et qui était encore encore possible aujourd'hui et même affirmé tel quel dans ses productions plus récentes, c'est-à-dire cette idée de ne pas renoncer à une certaine façon de voir le monde, même ne pas renoncer à des amitiés passées qui ont pu mal tourner, des amitiés et des amours. Je pense en particulier, évidemment, pour ceux qui s'y connaissent un peu, à la relation amoureuse, complexe, que Philippe Garrel a entretenu avec Nico, l'actrice, chanteuse et mannequin Nico, qui a entre autres été connue comme une égérie du Velvet Underground et d'Andy Warhol. Philippe Garrel a été son compagnon pendant quelques années et le fantôme, si on veut, le fantôme de Nico, après avoir joué dans ses films dans les années 70, dans les films de Garrel, est devenu l'une des figures récurrentes propres à cette esthétique de la réminiscence qui anime tout le cinéma de Garrel. Et si on veut, Les Amants réguliers, donc, qui est un film somme, mais aussi un film historique, le premier de son auteur, si on accepte ses films davantage mythologiques, presque bibliques, qu'il a fait dans les années 70, qui sont comme des artefacts qui témoignent au mieux de ce qu'a pu être la culture hippie et underground. Après avoir fait un tel film somme, comment se dégager de ce trop-plein de mémoire qui a permis de faire cet aérolithe du cinéma contemporain qu'est Les Amants réguliers, ayant en tête aussi que c'est un cinéma subjectif qu'on prend entièrement ou qu'on rejette entièrement, d'où le fait qu'un cinéaste comme Garrel s'attire autant les foudres de la critique. C'est un phénomène récurrent que les projections de ses films en festival soient huées. Par ailleurs, il a beau jeu de dire en conférence de presse que, évidemment, c'est arrivé peut-être 10 fois plus à Godard, c'est arrivé aussi à Antonioni, dont on n'imagine pas à quel point L'Aventura, qui est un des grands films des années 60, qui est un des grands films point final de la modernité, a pu être détesté en son temps. C'est des choses qui arrivent toujours aujourd'hui, et c'est bizarre comment cette réaction souvent... emphatique de la critique lors des premières en festival a une valeur objective dans les médias, de telle sorte qu'on a l'impression que ça se répète tout le temps, l'histoire se répète, et du coup la réminiscence, qui est un peu le fer de lance de tout le cinéma de Garrel depuis des années, voire des décennies, se trouve d'autant plus justifiée qu'il faut toujours se battre contre des murs que l'on croit être tombés depuis longtemps, soit les murs de la modernité avec lesquels d'une certaine manière s'est opposé les murs de la modernité devant lesquels forcément la critique s'est un peu frappé le nez. Ben, il faut encore considérer que ce mur-là est assez fragile et que la rumeur est toujours a toujours envie de clouer au pilori nombre de créateurs. Si les choses se répètent, eh bien, pourquoi pas s'entêter à insister sur une manière de faire du cinéma qui ne va pas dans le sens courant. Donc, c'est un peu le plan de Garrel. Et son dernier film, Un été brûlant, est un film qui prend un peu, je dirais pas le contre-pied de ce qu'avait été Les Amants réguliers, mais tend à proposer avec de la couleur la plupart de ses films. En fait, tous ses films dans les années 2000 sont en noir et blanc. Son plus récent film en couleur, c'était Le Vent de la nuit avec Catherine Deneuve à la fin des années 90. Tout à coup, il reprend la couleur. Bon, c'est pas n'importe quelle couleur. La question de la réminiscence est toujours importante chez Garrel, mais cette fois-ci, on a l'impression qu'il est davantage diffuse, c'est-à-dire qu'on la retrouve plutôt dans le travail sur les couleurs, qui rappelle les années 60, la manière dont, par exemple, un cinéaste comme Antonioni, dans Le Désert Rouge, ou encore Blow Up, même Zabriskie Point, découvrait la couleur et contribuait à créer une certaine manière de représenter l'époque qu'étaient les années 60, à tel point que qu'on imagine les années 60 maintenant, on l'imagine comme elle a été imaginée, représentée par Antonioni. Donc une manière de voir la couleur qui est devenue finalement une sorte de vision unanimiste. C'était pas le cas à l'époque, mais ça l'est devenu avec le temps, de ce qu'a pu être la sensibilité des années 60. Je crois aussi que Le Mépris a été une inspiration importante pour Garrel dans Un été brûlant. Pour le reste, c'est un portrait de mœurs, comme on l'a vu souvent dans les films antérieurs du cinéaste, mais c'est un portrait de mœurs où on a l'impression que le cinéaste passe davantage le relais à son fils et à une jeunesse qui existe et qui n'est pas nécessairement nostalgique. Elle existe de toute manière, elle est pas diamétralement opposée à ce que pu être les années 60. Donc Il y a tout à coup une volonté, j'ai l'impression, chez Philippe Garrel, de voir une continuité dans le monde contemporain avec ses réminiscences et ses autoportraits qu'il a tellement mis de l'avant dans les films antérieurs. Et en particulier, évidemment, ceci renforçait ce souci de continuité dans le monde contemporain, cette nostalgie qui prend un peu le bord dans la situation dramatique au profit d'une actualité de la jeunesse, c'est renforcé par le fait que Louis Garrel, son fils, joue dans le film. Et c'est souligné par une séquence finale sur laquelle j'ai envie d'insister un peu, qui est magnifique, qui est une forme d'apparition du grand-père le réel grand-père de Louis Garrel, Maurice Garrel, qui a joué dans tous les films, pratiquement tous les films de son fils, depuis le premier, qu'il a réalisé à 15 ans au milieu des années 60, qui s'appelait Les Enfants désaccordés, qui est un moyen métrage absolument sorti de nulle part. Ben, pas sorti de nulle part, puisque Philippe Garrel venait d'une famille d'artistes. Il avait déjà vu Alphaville de Godard à l'époque, par exemple. Mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'un jeune qui baigne dans un milieu culturel extrêmement stimulant fasse nécessairement un film à 15 ans avec une sorte de singularité, de maturité qui fait le pont avec aujourd'hui. Maurice Garrel, qui joue dans ce premier film et qui, dans le dernier, apparaît comme un fantôme, comme une apparition face à Louis Garrel qui est mal en point, qui vient d'avoir un accident de voiture. Et Maurice Garrel était décédé. Est décédé au cours de l'été, donc c'est une apparition, ni plus ni moins, dans le film, qui montre aussi comment Garrel réussit à solutionner un des problèmes peut-être de son cinéma ces dernières années et qui faisait l'aspect étouffant de son cinéma, c'est-à-dire ses difficultés à faire respirer la vie autour des situations que vivaient ses personnages, ses acteurs. Non pas que ce soit pas dramatique ce que le film montre, mais on a l'impression que ça respire plus qu'ailleurs. Il y a à la fois le choix de la couleur, mais aussi la présence inattendue de Monica Bellucci dans le rôle de la belle égérie italienne, qui est montrée comme une sorte de modèle pour Philippe Garrel, qui tout à coup a envie de voir autrement une actrice si représentée partout, partout au-delà du cinéma, dans les magazines, dans tout ce qui fait en sorte que le cinéma est parasité de l'intérieur par sa propagande, sa promotion. Tout à coup, cette icône promotionnelle, comme toutes les bonnes stars, devient un modèle. Et il faut toute la vision et l'expérience d'un cinéaste, je pense, pour réussir à faire sortir le corps d'un acteur ou d'une actrice de cette espèce de corset promotionnel. Quand je dis acteur ou actrice, il faut plutôt entendre star, en fait. Donc, comment sortir la star du corset promotionnel, c'est ce que parvient à faire, je pense, Garrel. Le deuxième plan du film, où Monica Bellucci pose nue et où ça respire, où le plan est fixe en fait et sa respiration est déterminante. Et elle dit rien. Donc laisser un espace aux acteurs, laisser un espace à la vie, c'est peut-être par la couleur, par le temps, par simplement la patience de faire durer un plan, c'est peut-être le nouveau secret révélé du talent de la mise en scène, c'est rare d'un cinéaste comme Philippe Garrel.
Thank you.
Tous les samedis de 13h, écoutez la nouvelle saison de Contes de fées, l'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs et animée par Olivia Bui. Deux rubriques se sont ajoutées à l'émission. Le coin des enfants lecteurs, qui donne la parole à des jeunes qui présentent leurs livres préférés, et Comme des écrivains, qui présentent les œuvres des élèves de l'école de la Grande Hermine. Contes de fées de 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. J'aime à me faire peur. Vous êtes parents de jeunes conducteurs et vous êtes préoccupés par leur sécurité? Assistez à la conférence du Dr Chiquan. Vous apprendrez comment les aider à minimiser les risques et les dangers qui trop souvent sont la cause des accidents de la route chez les jeunes conducteurs. Cette conférence débutera à 19h et aura lieu au Collège François-Xavier Garneau lundi le 3 octobre, au Cégep Limoilou, campus de Charlebourg, mardi le 4 octobre. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Du 10 au 18 septembre, vivez l'International des musiques sacrées de Québec. Découvrez des musiques de partout dans le monde, Europe de l'Est, Inde, Angleterre. Retrouvez des grands noms d'ici ainsi que l'incontournable grand-messe de Gilles Vigneault et Bruno Fecteau. Célébrez notre 15e anniversaire avec Grégory Charles et son chœur de chambre. Du 10 au 18 septembre, l'International des musiques sacrées de Québec. Exaltant et inspirant. Programmation complète sur imsq.ca. Une présentation des foyers d'Unbar.
Au moment où on se parle,
que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique,
dans le monde du sport,
au cœur de la communauté artistique,
ou encore à l'international,
tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre.
Le rôle de mon journal?
Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité.
Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir.
C'est KRL. 89 ans. Cultive tes goûts.
Ici Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, une émission entièrement consacrée au cinéma, et on vient Tout juste d'entendre un extrait d'un film qui s'appelle « J'étais une fois en Anatolie », un extrait dont je me rends bien compte qu'il ne révèle pas grand-chose, dans la mesure où le son, la trame musicale qui est préconisée dans cet extrait, en fait, qui est la bande-annonce, est plutôt d'ambiance. Donc, si on s'en tient à ça, on n'en retient pas grand-chose. Sauf que c'est quand même un point de départ pour parler d'un film assez singulier qui a gagné le Grand Prix du jury, je crois, sauf erreur, Grand Prix du jury à Cannes ou Grand Prix de la mise en scène, je revérifierai tout à l'heure, à Cannes, que certains critiques auraient souhaité voir remporter la Palme d'Or, d'autant plus étonnant pour son réalisateur que ce film ait remporté un prix qu'il avait été présenté à un moment assez ingrat dans le contexte de la programmation de Cannes, c'est-à-dire quelque chose comme la veille de la remise des prix, soit la case horaire la plus détestable pour un cinéaste en compétition, puisque le jury est déjà ni plus ni moins à l'état de délibération lorsque le film est présenté. Il est à noter, avant d'aller plus loin pour parler de ce film, j'en parlerai seulement quelques minutes, mais c'est un des films marquants que j'ai vu au Festival de Toronto, dont je suis revenu en début de semaine, bon, je suis allé quelques jours. Il était une fois en Anatolie, c'est un film qui a été projeté en 35 mm à Cannes, comme à Toronto. Avec un autre film dont sans doute je reparlerai prochainement, La Polonaise de Bertrand Bonello. C'est un des rares à avoir été projeté en 35 mm à Cannes. Donc on est dans une période où, et c'était la même chose à Toronto d'ailleurs, je tiens à le dire, dans la tranche de film, si je peux m'exprimer ainsi, que j'ai vu au festival pendant quelques jours, le film de Bonello et le film de Céline étaient parmi les deux seuls. Et en fait, c'est pas innocent, le film de Dumont aussi, dont je vais parler tout à l'heure en fin d'émission, c'est parmi les seuls que j'ai pu qui ont été présentés en 35 et qui sont aussi présentés en 35 mm à Toronto. Quelle différence ça fait? Ben, c'est deux visions du cinéma qui peuvent s'exprimer, qu'un film soit projeté en 35 ou en numérique. Et quand je dis numérique, il faut préciser que c'est du DCP, donc c'est une nouvelle manière de présenter les films de façon numérique sur un disque dur. Et en principe, le disque dur comptabilise chaque projection de telle sorte que ça protège le distributeur, ça protège le distributeur des exploitants de salles, puisque éventuellement, si chaque projection est comptabilisée, ben, on peut pas faire de la contrebande et commencer à en projeter une autre. Donc, il y a une volonté de contrôle qui est assez forte et qui accompagne le DCP. D'une certaine façon, ça fait écho aux impasses de la projection numérique par rapport au 35, selon les esthétiques évidemment préconisées par les cinéastes. Certains films ont été réfléchis, pensés, construits pour avoir ce type de projection numérique. D'autres se retrouvent à devoir tourner en numérique tout simplement parce que ça devient la norme. Par exemple, en France, 70% des films qui ont été tournés cette année l'ont été en numérique et 30% sur pellicule, alors que la proportion était inverse l'an dernier. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que plusieurs cinéastes qui ont une certaine manière, une certaine vision du cinéma ne trouvent plus nécessairement les moyens techniques avec lesquels ils ont été habitués d'exprimer ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait un décalage parfois entre la vision qu'on a d'un film comme créateur et son résultat. Et pendant quelques années, je pense que on va se retrouver dans cette sorte de transition où certains films auraient pu être vraiment intéressants s'ils avaient trouvé les moyens techniques adéquats pour se faire, mais placés dans une position intermédiaire, ils n'ont pas ou ils n'ont pas eu la chance de faire un choix, ils se retrouvent en situation de déficit par rapport au mode d'expression qu'ils préconisent. C'est comme si tout à coup ils n'arrivaient pas à prendre le train en marche. Pour certains cinéastes, c'est possible de faire le choix, et c'est un rapport de force. Tout dépend du budget qu'on a, mais ça devient un rapport de force à ce moment-là avec les producteurs. Donc voilà pour ce qui concerne la manière dont les films sont présentés ces derniers mois dans les festivals. Et je dirais que avoir en tête que le film de Céline est projeté en 35 mm, c'est déjà une manière de comprendre aussi quel est l'art de la mise en scène avec lequel il est d'autant plus adéquat d'utiliser ce format. Pour Céline, la question de la durée est importante, mais aussi je parlais avec Philippe Garret de la respiration. Je pense que je pourrais utiliser ce terme-là aussi pour Céline, c'est-à-dire l'idée de travailler sur la profondeur de champ est un des axes principaux de la mise en scène du cinéaste dans ce film. Pour ceux qui connaissent Abbas Kiarostami, cinéaste iranien qui a beaucoup joué sur la profondeur de champ en exprimant des situations, des actions ou des situations dramatiques par la distance qu'il peut y avoir entre deux personnages qui se retrouvent dans un paysage donné. Vous comprendrez peut-être que si Céline reprend ça, il a d'autant plus besoin d'utiliser un mode d'expression, une technique qui est analogue, qui correspond à l'analogue. Parce qu'on sait que le numérique travaille la lumière et la profondeur de champ de façon assez différente, et en particulier, pour savoir bien travailler la profondeur de champ en numérique, il faut avoir les outils adéquats, mais il faut aussi avoir en tête qu'il va falloir composer avec une sorte d'aplat. Il y a moins de profondeur de champ dans le cinéma numérique avec lequel il est possible de composer, sans doute, mais c'est certain que ça implique des ajustements et ça implique d'avoir en tête qu'il y a au préalable une limite avec laquelle on peut pas jouer, tandis que on peut pas jouer tant que ça, tandis que pour la projection en 35, il y a cette profondeur de champ qui est déjà présente, qui est consubstantielle au format 35 mm. Donc si on utilise le numérique et qu'on veut aller dans un art de la mise en scène qui joue sur la profondeur de champ, il faut avoir en tête que forcément le 35 était déjà mieux pour y aller, pour aller dans ce sens-là, et que le numérique va, avec les moyens du bord, essayer de faire comme si c'était du 35. Donc, comme le disait Bruno Dumont, pour répondre à une question suite à son film Hors Satan, pourquoi vous tournez encore en 35, ben, il répondait à ça en disant, ben, s'il s'agit de tourner en numérique pour parvenir à avoir un effet qui ressemble au 35 ou qui est comme du 35, aussi bien prendre l'original. Donc c'était un peu sa perspective. Et dans le film de Céline, le paysage est extrêmement important. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est justement comment l'intrigue se perd un peu au profit de relations entre les personnages qui trouvent toute leur valeur dans la dimension picturale qui les lie. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que une situation entre, admettons, un inspecteur de police et un médecin légiste qui parcourt les paysages plus ou moins désertiques, en fait les champs déserts de l'Anatolie en pleine nuit pour essayer de retrouver un cadavre, puisque c'est l'intrigue du film. Comment rendre compte, c'est un peu la question de Céline, comment rendre compte de ces situations n'ayant pas en tête nécessairement juste l'intrigue, la reproduction de l'intrigue, c'est-à-dire où est le corps, mais plutôt que font ces personnages dans cet espace. Pendant une demi-heure, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop ce qu'ils cherchent. Peu à peu, on comprend qu'ils cherchent un cadavre. Donc, pendant une demi-heure, Céline joue sur la profondeur de champ, joue sur la place qu'occupent les personnages dans l'espace qu'il traverse pendant justement une trentaine de minutes et plus, et c'est à partir de cette force en ce qui a trait à la composition du plan que la situation peu à peu surgit. Il était une fois dans l'atelier, c'est un film de paysage, c'est aussi un film qui est traversé par la mélancolie, la nostalgie, d'où un effet d'écho sans doute au cinéma de Sergio Leone. Guillaume Lafleur, sur les ondes de CKRL, vous écoutez Westassium Ciel, une émission entièrement consacrée au cinéma. Et cette semaine, j'abordais trois films. En fait, je vais aborder le troisième film vu à Toronto au festival dans les derniers jours. Le troisième film dont j'ai envie de parler, j'aurai seulement quelques minutes pour vous en glisser quelques mots. Il s'agit du film Hors Satan de Bruno Dumont. Bruno Dumont est un cinéaste dont j'ai déjà parlé ici, qui, entre autres, a réalisé le film Flandre, qui avait été projeté plus tôt cette année à Québec dans le cadre d'une programmation d'Antitube. Hors Satan, c'est un film qui fait un peu le pont entre ce que le réalisateur avait fait au début des années 2000, juste avant Flandre, entre autres... Je pense à L'Humanité, qui était même un peu avant, un peu réalisé un peu avant, et une autre manière de faire son cinéma que l'on voit surtout apparaître avec Adovitch, qui est son film tout juste précédent, réalisé il y a 2 ans, et qui avait été aussi présenté il y a 2 ans à Québec, pas à Québec malheureusement, au Rendez-vous du cinéma québécois et auparavant au Festival de Toronto. Hors Satan, c'est un film qui fait le récit... d'un personnage un peu errant qui a un campement près de la plage et qui se retrouve un peu à cheval entre bien et mal. C'est-à-dire que, d'une part, il est apparemment un criminel en fuite. Il a une petite compagne avec laquelle il fait des balades. C'est dans la région du Pas-de-Calais que le film a été tourné. Donc, il y a toute une mise en valeur très caractéristique du cinéma du monde, du paysage du Pas-de-Calais, et d'où le lien peut-être avec le film de Céline et le fait que le film de Dumont a été projeté en 35. Donc un travail sur la profondeur de champ, beaucoup de plans où les personnages sont face à la mer ou alors se retrouvent dans des champs qui impliquent des espaces quasi désertiques ou plutôt des espaces ouverts. Et on peut dire que dans tout au long de ce film, il y a une oscillation aux ornières du fantastique entre l'extrême violence où se commet le personnage principal qui est interprété par David Deval, un acteur qui est tout sauf un acteur typique, quelqu'un qui a une physiologie exceptionnelle, une beauté plastique, en fait un visage qui est en soi pratiquement un paysage, qui a déjà une valeur pictural, avec plein de ridules, une sorte de brillance à travers ses cheveux poivre et sel tout à fait exceptionnel, mais la mise en scène contribue à valoriser ça. Mais il y a aussi le fait que ce personnage est également édenté, et c'est cette tension entre bien et mal dans laquelle se trouve le personnage, qui est presque déjà illustré dans son visage, qui est absolument exceptionnel et très émouvant. Un acteur tout à fait atypique et caractéristique des films de Dumont, un acteur non professionnel. Et il est bon en quoi? Il est bon, il fait le bien en quoi? Il fait le bien parce qu'il est capable également de guérir, de faire des miracles. Et c'est ce cinéma de Dumont qui est tout à fait rare dans la production contemporaine, faisant le lien entre littéralement ce qu'on pourrait appeler la mystique, le miracle, avec un sens dans la représentation du paysage qui est exceptionnel, et quelque chose qui est autrement plus violent, âpre, et qui fait écho à cette violence que l'on voit dans le cinéma un peu partout, qu'on voit en particulier à Toronto, qu'on voit dans les médias, et qui tout à coup est présentée avec une sorte de lenteur, une sorte de rythme qui rend la cruauté d'autant plus effroyable et d'autant plus actuelle, comme l'est rarement en fait la représentation de la violence dans les médias, qui est toujours une représentation qui ne fait qu'attendre sa suppléante, comme s'il y aurait une nouvelle violence que l'on verra dans la prochaine actualité qui remplacera la précédente, et tout s'efface. Alors malheureusement, les images de violence chez Dumont ne s'effacent pas, elles restent imprégnées en mémoire, et c'est un peu le prix de son cinéma que de permettre ça. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour l'instant pour le film Hors Satan de Bruno Dumont. C'est déjà la fin de notre émission. Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Je reviendrai un peu la semaine prochaine sur d'autres films du Festival de Toronto. D'ici là, je vous dis à bientôt, et je vous dis peut-être rendez-vous mardi à 19h30 au Panorama des cinémas du présent, Musée de la civilisation. Il y a un film chinois assez exceptionnel qui s'appelle Platform de Yazhang Ke, un cinéaste rare, tout à fait à part dans la cinématographie mondiale, que je vous invite à venir voir. C'est mercredi prochain, une présentation d'Antitube. D'ici là, portez-vous bien.